carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, bienvenue dans cette émission Carrefour des Arts où nous retrouvons Brigitte Ducousseau-Mao pour sa série consacrée à l'art nouveau. Brigitte Ducousseau-Mao, bonjour.
Bonjour.
Dans de précédentes émissions, vous avez évoqué le mouvement Arts and Crafts et les pré-raphaélites. On peut d'ailleurs retrouver ces émissions dans la médiathèque de Canal Académie où elles sont archivées. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'une personnalité particulièrement créatrice et idéaliste de ce mouvement qui s'appelle Charles Roberts Ashby. Ai-je bien prononcé d'abord ?
Je ne connais pas bien l'anglais, mais vous l'avez prononcé comme les Français doivent l'entendre.
Donc, Ashby, vous allez nous expliquer en quoi il a transformé la vision de l'artiste artisan. Pourquoi son expérience d'architecte, entrepreneur, fut fondamentale pour l'histoire des arts appliqués. Tout d'abord, Brigitte Ducousseau-Mao, fidèle à votre méthode, vous allez nous resituer le contexte de cet artiste, c'est-à-dire cette fin du 19e siècle, ce dernier quart du 19e siècle dans lequel Ashby a évolué en Angleterre.
En effet, pour toute cette génération d'artistes, l'expression la plus complète de l'idéal du mouvement anglais Arts and Crafts était de s'installer à la campagne afin de perpétuer les méthodes traditionnelles de l'artisanat et de vivre dans un cadre aéré dans lequel le corps pourrait se développer sans contrainte. Il y avait là une certaine idée du bonheur qui passait par le bien-être physique. Un esprit sain ne peut exister que dans un corps sain. Et n'oublions pas que c'est essentiellement au XIXe siècle qu'apparaît la notion d'hygiène, et tout d'abord en Angleterre, ce pays où se développe parallèlement la pratique du sport.
Alors juste un petit retour en arrière de quelques siècles. Cette attitude face au mode de vie campagnard n'est pas vraiment nouvelle en Grande-Bretagne, puisque au XVIe siècle déjà, l'humaniste Thomas More, auteur d'Utopia, préconisait un mode de vie simple, sain, familial, qu'il pratiquait d'ailleurs lui-même avec sa famille à Chelsea, avant que le roi Henri VIII ne le fasse décapiter. Alors, c'est dans ce contexte donc qu'Ashby va fonder en 1888 quelque chose d'important et dont vous allez nous parler.
Oui, il fonde la Guide of Handicraft à Londres, qui est une espèce de guilde, comme au Moyen-Âge, comme à l'époque médiévale, pour les travaux manuels à Londres quelques années plus tard, en 1902. Et il a encouragé ses employés et leurs familles à déménager dans le Cotswolds, à Chipping Campden, afin de mener une vie plus simple, en accord avec ses convictions et surtout celle du mouvement Arts and Crafts auquel il appartenait. Et la Guide of Handicraft va devenir le modèle à suivre pour tous les autres ateliers et toutes les autres guildes qui se sont créées à la fin du 19e siècle.
Donc il y a eu d'autres guildes dans d'autres pays qui se sont inspirées d'Ashby, qui ont imité sa conception de la vie et de l'art.
En effet, de nombreux exemples de guildes vont s'inspirer des travaux d'Ashby. Il y a eu en Allemagne la colonie d'artistes de Darmstadt en 1899, puis le Wiener Verstädte en Autriche, et ensuite une autre colonie à Woodstock dans l'état de New York entre 1902 et 1903. Les idéaux du mouvement Arts and Crafts étaient repris partout, utilisés largement pour mettre en exergue les problèmes de société inhérents à l'industrialisation massive et surtout à l'absence de réflexion sur l'urbanisme.
Donc le modèle était esthétique sociale britannique, puisque né en Angleterre. L'Angleterre était devenue alors le point de mire du monde des arts et des lettres, et l'on se rendait à Londres pour voir les dernières créations des artistes anglais, c'est bien cela.
Les Européens, les Américains se déplaçaient pour voir les expositions d'art organisées par William Morris et le mouvement Arts and Crafts Exhibition Society à la New Gallery dans le Regent Street. Les foires et les expositions internationales qui étaient dominées par des entreprises commerciales furent boudées à ce moment-là, et William Morris incitait tout le monde à exposés dans des galeries. Il nous faut cependant préciser que ces ateliers ou ces communautés dont on parle jusqu'à présent, que ce soit les colonies ou que ce soit les ateliers d'artistes, n'étaient pas, de quelque pays d'origine que ce soit, n'étaient pas aux mains de la classe ouvrière, mais de la gent éduquée qui appartenait aux catégories sociales supérieures. Tous ces gens étaient des gens cultivés, sortis de Cambridge, d'Oxford. Et les mécènes ont beaucoup aidé cette élite urbaine et intellectuelle à faire aboutir leurs idéaux, car ils avaient pressenti qu'il était important de promouvoir ces différents mouvements esthétiques qui permettaient peu de débordements sociaux aux différentes classes sociales et qui permettaient surtout de se projeter dans ces formes nouvelles et de trouver un discours commun, une identité nationale au sein d'un monde moderne en pleine mutation. On se projetait dans des formes nouvelles, des formes contemporaines qui permettaient de canaliser le désir de changement.
Alors Brigitte Ducos-Somao, vous venez de nous situer le contexte dans lequel a évolué Ashby. Revenons donc à Ashby. Quel était cet homme? Quel a été son parcours de jeunesse?
Ashby est né en 1863 à Londres et son père était un homme d'affaires fortuné. Vous voyez, cela rejoint ce que je viens de dire précédemment. Sa mère était d'origine juive, elle était fille de riches marchands installés à Hambourg. Et Robert Ashby et sa mère étaient très liés et restèrent d'ailleurs liés tout au long de leur vie l'un et l'autre. Ils étaient très attentifs l'un et l'autre et très cultivés tous les deux. Et il fut envoyé par sa mère à l'université de Cambridge où il étudia en 1883 et ses études se sont poursuivies jusqu'en 1886. Il a gardé de cette période de formation une certaine fraîcheur estudiantine et pendant une grande partie de sa vie d'adulte, il reviendra à ses idées de collégien. C'est à Cambridge que se sont forgés son caractère et sa manière de penser. C'est également à Cambridge qu'il découvre son homosexualité, qu'il va tenter de sublimer durant toute sa vie, en témoignant aux hommes ce qu'il appelait la camaraderie. Et après Cambridge, il entre comme élève chez l'architecte néo-gothique Georges Frédéric Baudelet. Mais il ne se contentait pas de cette activité sédentaire, il ne se contentait pas d'être un étudiant. Chaque soir, il rentrait chez lui à Toynbee Hall, dans le quartier industriel et populaire de Londres, situé près des docks de Londres.
Alors c'est quoi Toynbee Hall? Expliquez-moi ce que c'est.
Alors Toynbee Hall fut un des premiers établissements universitaires pour jeunes diplômés d'Oxford ou de Cambridge et on demandait aux jeunes gens étudiants issus de familles aisées de vivre au milieu des pauvres et de se consacrer le soir, après leurs études, à quelques œuvres sociales. Et il faut chercher l'origine de ces établissements dans le profond sentiment de malaise des classes anglaises qui étaient privilégiées et qui étaient atterrées du spectacle de la fracture sociale. En effet, Londres était divisée entre un West End aisé et un East End qui sombrait dans la misère.
Donc ils avaient finalement, incité les étudiants à passer une partie de leur temps à s'occuper des miséreux. Alors revenons donc en 1888 et à Ashby.
Alors c'est vrai que cette expérience a profondément marqué Ashby, cette expérience philanthropique et urbaine, et il a décidé, à la suite de cette expérience, d'établir à Londres un atelier d'artisanat appelé la Guild of Handicraft, dont nous avons déjà parlé précédemment. Cette guilde avait pour but de combler l'écart entre les classes moyennes et les classes populaires. Et à sa création, cette guilde comptait 4 artisans qui produisaient de simples objets de métal et du mobilier. En 1900, la guilde employait déjà une cinquantaine d'ouvriers et elle produisait des bijoux, de l'argenterie, du mobilier, des fers forgés et des livres imprimés. Cet atelier fut l'œuvre et la vie d'Ashby, et le bien-être des ouvriers qui travaillaient dans ces ateliers lui importait bien davantage que les simples questions de design ou de style. Il a fondé cet atelier parmi les Cockneys, qui sont les habitants de l'Est de Londres, dans ce lieu qui était dédié à la solidarité. Ashby s'impliquait dans la vie de ses artisans. Il leur apprenait les chansons traditionnelles, organisait des représentations de pièces de Shakespeare, emmenait les jeunes gens à la campagne l'été pour pratiquer l'aviron sur la Tamise. Et l'une de ses idées majeures, l'une de ses idées pour cette guilde à laquelle Ashby était très attaché, était que l'artisan pouvait et devait apporter une contribution personnelle et originale à l'œuvre qui dépassait la simple habileté d'exécution. Il voulait l'implication de l'ouvrier dans l'acte de création. Et son objectif était de créer un produit commun aux artistes de la guilde. Il désirait les concerner, les engager dans la création.
Un bel idéal, véritablement. Alors, cette manière de penser, cette façon de vivre, était-elle bien acceptée par tous les artisans de l'époque ?
Et non. Il a rencontré quelques difficultés avec les ébénistes qui n'adhéraient pas à cette façon de pratiquer. Ils étaient plus préoccupés de questions syndicales que de créativité, se contentaient d'être des exécutants et voulaient simplement qu'on leur dise quoi faire.
Ça, c'est une mentalité, ça existe toujours.
Et c'est d'ailleurs peut-être en partie à cause de cette hostilité des ébénistes que le mobilier produit par la guilde n'a jamais atteint le degré d'originalité des bijoux et de l'argenterie créée avec les orfèvres, avec qui ils s'entendaient beaucoup mieux. Mais Ashby fut comblé par le travail d'orfèvrerie de ces artisans de la guilde qui ont réellement travaillé à la production d'une œuvre commune.
Donc, plus de bijoux que de meubles. Alors, comment étaient ces fameux bijoux de la guilde fondée par Ashby?
Alors, ces bijoux étaient de petite taille. Il va fonder ses bijoux à partir de 1893. C'était des petits fermoirs, des médaillons, des pendentifs, des broches, des objets toujours très simples et d'un grand raffinement. Ces bijoux étaient d'inspiration naturaliste. Bien sûr, la nature est la grande maîtresse de ce mouvement Arts and Crafts. Les feuilles, les fleurs et les insectes ailés. Ashby, tous les travaux d'Ashby contrastaient avec les traditionnels fers à cheval, les chœurs ou les clubs de golf que les bijoutiers de l'aristocratie fabriquaient. Ashby n'utilisait que des pierres semi-précieuses, de l'émail, de l'argent, et ceci pour se démarquer des bijoux contemporains du commerce qui, à l'époque, faisaient largement appel aux diamants et à l'or. L'utilisation par Ashby de la couleur et de matériaux sans grande valeur, aux motifs néanmoins délicats, était une manière d'affirmer le caractère artistique du bijou, qui n'était plus considéré comme un signe d'ostentation sociale. Donc, il change radicalement la valeur du bijou.
Je comprends ça. Donc, les bijoux, bien sûr, mais aussi que... En dehors des bijoux et en plus des bijoux, on travaillait l'argenterie. Quelles étaient les caractéristiques de cette argenterie ?
De la même façon qu'il avait créé les bijoux, Ashby créa un nouveau style d'argenterie pour agrémenter la table des classes moyennes anglaises. Par opposition à l'argenterie du commerce, il ne développa jamais de service de table aux motifs assortis. Tous les modèles étaient originaux et très simples. Les salerons étaient différents du beurrier et du crémier. Aujourd'hui, il est de bon ton de mettre des assiettes de brocante dépareillées sur la table. Eh bien, nous devons cette idée à Ashby. Les idées évoluent, elles sont toujours, comme disent les Anglais, in progress. L'argent était travaillé en aplats martelés, plutôt que poli, et des fils d'argent bouclés rehaussaient les objets. La couleur était introduite par des incrustations de pierres semi-précieuses, toujours, et d'émail, parce que ce sont des matériaux qui sont peu onéreux. La Guild of Handicraft produisait des objets simples afin de permettre aux jeunes artisans encore inexpérimentés d'apporter leur contribution. En effet, la pose des pierres de couleur exigeait du discernement, mais très peu de dextérité. Et cela laissait aux novices toutes les chances de devenir des créateurs. Autour de 1900, l'atelier d'Ashby connut une grande prospérité. Le travail produit par la guilde recevait un accueil favorable et enthousiaste du public, de Paris à Vienne, en passant par Chicago. Sa vie d'architecte artisan se transformera en suivant.
Donc Ashby est devenu un artiste célèbre, connu, son atelier marche bien. Sans doute, ça lui rapporte de l'argent. Alors, va-t-il devenir un artiste, entre guillemets, établi, ou va-t-il rester fidèle à ses conceptions d'une vie proche de la nature, ses conceptions sociales, son idéal, en un mot ?
Ashby va toujours rester le même et toujours fidèle à tous ses principes. En 1898, Il y a néanmoins un petit changement dans sa vie. Il épouse Jeannette Forbes, de 15 ans, sa cadette. Cette histoire débute dans le doute et les tromperies, puisqu'on connaît les penchants d'Ashby. Puis, progressivement, cette histoire va se transformer en une véritable histoire d'amour et de confiance mutuelle. Et leur fille, Felicity, raconte cette drôle d'union dans un livre qui est paru en 2002, qui s'appelle Jeannette Ashby, le mariage et l'amour dans le mouvement Arts and Crafts. Alors, ce succès contribua sans doute à lui donner confiance en lui. Et c'est à ce moment qu'il va décider de transférer ses ateliers de l'Est londonien à la campagne afin de mettre en pratique les préceptes d'Arts and Crafts. C'est ainsi qu'en 1902, il a réussi à convaincre 150 hommes parmi ses ouvriers et de partir travailler à la campagne avec femmes et enfants.
Et les femmes travaillaient aussi dans ces ateliers,
certaines,
je suppose.
Et d'autres, oui, certaines femmes travaillaient.
Mais alors tout le monde à la campagne.
Tout le monde à la campagne.
Bon, donc, les ouvriers quittent.
Les ouvriers et leurs femmes et leurs enfants quittent l'est de Londres et vont vivre à Chipping Campden, qui est une petite ville idyllique du XVIIe siècle, tout à fait anglaise, au sud de l'Angleterre, en pleine campagne anglaise très verte. Et c'est au nord de cette petite, de cette région très verdoyante, au nord des collines du Cotswolds, que Ashby va installer sa nouvelle usine dans une ancienne filature de soie désaffectée du XVIIIe siècle qui fut rapidement reconvertie en atelier pour y installer la Guild of Handicraft.
Déjà, le lieu avait l'air d'être très beau. Alors, cet idéal de vie ouvrière à la campagne, si on peut dire, résista-t-il au temps ?
Malheureusement, non, mais peut-être parce qu'il manquait Internet.
Ah !
Cette expérience s'avéra une réussite pendant quelques années. Elle a attiré l'attention des journalistes qui applaudirent chaleureusement à cette initiative. Toutefois, il s'avéra que d'un point de vue économique, la guilde ne pouvait pas survivre aussi éloignée de Londres. Et en 1907, Ashby décide de la mettre en liquidation. Et la plupart des guildmen durent quitter Campden. Quelques-uns restèrent sur les lieux pour travailler à leur compte. Et l'atelier d'argenterie installé au premier étage de la guilde existe et fonctionne encore et peut se visiter aujourd'hui encore.
On a très envie d'aller visiter. Alors, doit-on considérer cette liquidation de cet atelier à la campagne comme un échec pour Ashby ?
Non, parce qu'il a réalisé presque jusqu'au bout son idéal, qu'on aimerait voir poursuivre de nos jours encore, d'ailleurs. Et sa vie était accomplie, puisqu'il avait intégré son aspiration dans sa propre vie. Et la guilde est restée au centre de la vie et de l'œuvre d'Ashby. Elle se confondait, mais quand il a perdu cet atelier, il s'est senti perdu et il a consacré tout son temps de libre à écrire des ouvrages sur l'architecture, le socialisme, l'enseignement technique, l'instruction des adultes, l'architecture, l'urbanisme. Et toutes ces réflexions sont consignées dans un journal intime qui comporte des milliers de pages. Cet ouvrage est connu sous le nom d'Ashby Journal et il est conservé au King's College de Cambridge, puisque Ashby était un ancien élève de Cambridge. C'était cette université qui avait formé ce brillant et singulier sujet britannique. Alors, il a donné de nombreuses conférences aux États-Unis également. Il n'est pas resté qu'en Angleterre, ce qui va donner un mouvement Arts and Crafts américain aussi, très fort. Et il fut nommé en 1919 conseiller civique de Jérusalem, tout simplement parce que la ville venait d'être placée sous le mandat britannique. Et son rôle consistait à prendre soin du patrimoine historique de la ville. Ces nouvelles tâches lui convenaient parfaitement parce que...
Il y avait de quoi faire.
Et oui, et elles correspondaient tout à fait à ce qu'il avait toujours eu envie de réaliser. Il fut d'ailleurs très heureux durant quelques années, mais étant habitué à être son propre maître, il eut quelques difficultés à supporter le système bureaucratique et démissionna en 1922. Puis, il se retira dans l'ancienne résidence de son épouse dans le Kent et il meurt à 79 ans en 1942.
Merci Brigitte Ducoussomao, vous nous avez tracé le portrait non seulement d'un artiste exceptionnel, mais je dirais d'un homme de haute valeur, un humaniste qui était habité d'un idéal de fraternité, qui a voulu allier le travail et la beauté, l'éthique et l'esthétique. C'est assez exceptionnel pour qu'en effet on le souligne. Brigitte Ducousseau-Mao, nous vous retrouverons pour un autre Carrefour des Arts, toujours consacré à l'art nouveau. Merci et à bientôt. Vos émissions, je le rappelle, sont téléchargeables dans la médiathèque de Canal Académie à la rubrique Carrefour des Arts.